Voilà, bonjour à chacun. C'est en effet la troisième partie sur la prière, alors j'espère que je pourrai terminer, sinon il y aura une quatrième partie, parce que cette partie-là est assez longue, mais elle est très importante, vous verrez, mais ça sera développé aussi dans d'autres instances dans l'Église, donc je passerai assez rapidement sur un certain nombre de thèmes. Donc, vous pouvez retenir les thèmes sur la prière, parce qu'il y a 13 formes de prière que j'aborderai. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais par contre, c'est en tout cas un peu superficiel pour ce matin. Mais on rentrera dans la pratique par la suite, dans d'autres instances que nous aurons. Je vais les évoquer tout à l'heure. Seigneur, nous te demandons ta grâce pour que ta parole puisse pénétrer en nous, non pas comme les pharisiens superficiellement, mais que ta parole puisse profondément nous transformer de l'intérieur. Et surtout la prière, Seigneur, qui est quelque chose qui est absolument fondamental pour nous en tant que chrétiens. Seigneur, qui voulons te suivre et t'obéir. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits ce matin, nous te prions, au nom de Jésus. Amen, amen. J'ai intitulé ça « Le mystère de la prière ». Pourquoi mystère ? Parce qu'en fait, c'est très curieux qu'un Dieu qui n'est pas créé, ce que je n'arrive pas à comprendre, il n'est pas créé, il existe de toute éternité, donc c'est quelque chose qui nous dépasse, eh bien ce Dieu incréé, a une relation avec nous qui sommes créés, ces créatures. Lui qui est parfait, nous ne sommes imparfaits, voilà. Donc c'est vraiment un mystère et en même temps un privilège. Donc nous pouvons nous réjouir de cela, parce que même les anges n'ont pas les privilèges que nous avons. Donc ce mystère est quelque chose que nous pouvons contempler et pas forcément comprendre. Et en plus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, imaginez. Nous sommes une habitation de Dieu par le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que la prière est le poumon de l'Église. Vous savez, le poumon, si on n'avait pas de poumon, on a le sang, on a tout un tas de choses, mais c'est ce qui donne l'oxygène, qui nous aide à vivre en bonne santé. Donc la prière, c'est le poumon. Et les apôtres ont compris ce principe de la prière, parce que la première chose qu'ils ont demandé à Jésus, ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et c'est là qu'il leur a appris le Notre Père, dans Matthieu 6. Troisième chose, la prière est une nécessité absolue. Si on veut rentrer dans le combat spirituel, ce que chacun de nous, malgré nous, est amené à faire, plus ou moins, et surtout en tant qu'Église, si nous voulons gagner des âmes. Dès que nous voulons, entre guillemets, gagner des âmes, hein, comme on dit d'habitude, évangéliser, eh bien, nous nous heurtons à l'ennemi qui veut nous en empêcher, parce qu'en fait, ça détruit son royaume, et nous nous faisons avancer celui de Dieu. Donc la prière est capitale dans tous ces domaines, et bien d'autres encore que je vais aborder ce matin. Donc la prière de requête, je l'ai abordée, donc je ne vais pas la reprendre ce matin. La prière de requête, c'est exposer nos besoins à Dieu, et c'est ce qu'on fait essentiellement le mercredi, pas que, mais on expose les requêtes de chacun de vous. Le pasteur, les anciens récoltent un petit peu les besoins de l'Église et qu'on présente le mercredi au Seigneur. Et je vous invite à vous joindre à ces rencontres, parce que c'est une rencontre centrale de l'Église où vraiment on peut apporter au Seigneur les besoins de l'Église. Je passe à la deuxième forme de prière, c'est la prière d'autorité ou de combat spirituel, ou de délivrance, si vous voulez. Dans ce type de prière, il est question d'exercer l'autorité, son autorité en Christ, parce que nous avons une autorité, contre le monde de ténèbres, tel que Christ lui-même l'a fait. Et nous savons que dans Luc, chapitre 4, verset 36, et bien dans d'autres, lorsqu'il était sur la terre, Jésus, commander avec autorité et avec puissance. Et c'est ce qui le différenciait des pharisiens, des hommes de religion, de la loi. Tout le monde avait reconnu que Jésus parlait avec autorité. Quand il priait, les gens étaient guéris. Quand il ordonnait un démon de partir, le démon obéissait, etc. Et le problème, c'est que nous, chrétiens, nous sommes parfois paralysés devant des défis, le défi du monde de ténèbres. Parce que ça fait peur, parce que c'est pas évident, c'est parce qu'on n'a pas toujours des résultats. Vous savez, les assemblées de Dieu que Michel a très bien connues quand il était jeune, au début, ils avaient beaucoup de miracles et de délivrances. Et en ce moment, ils ont arrêté. Ils ont arrêté leur réunion d'évangélisation, ils ont arrêté beaucoup de choses. Ils ne croient plus, certains ne croient plus à la délivrance des démons, etc., parce qu'il y a eu des excès. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des excès qu'il faut arrêter pour autant. C'est pas des excès qu'on peut faire ou l'Église peut faire qui empêchent la réalité qui est toujours vraie depuis que le monde existe. Donc ce sont des défis qui doivent pas nous paralyser, affronter le combat spirituel. Jésus a appris à ses disciples. Rappelez-vous, Jésus était un enseignant et un praticien et il lançait les disciples dans l'évangélisation en disant « Voilà, maintenant je vous envoie ». Il envoyait plusieurs fois et il voyait Satan tomber du ciel quand il revenait et qu'ils avaient des victoires dans leur évangélisation. Jésus a appris aux disciples à commander avec autorité et à menacer les esprits qui se dressent contre nous. Alors là, il faudra rentrer dans le détail comment faire, parce que il y a une façon aussi de ne pas faire de bêtises dans le domaine de la délivrance. Le Seigneur nous a ordonné, dans Luc chapitre 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné ce pouvoir. Et un pouvoir est donné pour être exercé, sinon ça ne sert à rien le pouvoir. Donc il nous a donné ce pouvoir et c'est pour l'exercer dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons exercer cette autorité contre le monde de ténèbres, non pas par nos propres forces, mais dans le nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on soit intimidé face aux agissements du monde de ténèbres. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, dira Paul à Timothée, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et un autre verset que je ne peux pas développer, mais qui est très important, Jésus a dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu ». Les violents, vous l'avez compris, ce n'est pas la force de destruction, mais c'est ceux qui forcent les choses, et là, il faut se forcer souvent, à affronter le monde de ténèbres parce qu'il fait peur et il nous paralyse souvent dans l'évangélisation. Nous devons quand même faire très attention à ne pas commander aux anges de Dieu, c'est Dieu qui leur donne des ordres, ni à mépriser les anges qui sont au service de Satan, donc ce qu'on appelle les démons, et encore moins à les défier. Parce que même Moïse, etc., ne défiait pas. Donc il faut faire très attention. Notre juridiction, c'est-à-dire là où on a le droit de faire des choses, elle est limitée à la terre et au premier ciel. Et je vais montrer en quoi on fait une différence entre le premier, deuxième et le troisième ciel. Nous avons un tas d'exemples, là aussi je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, que ce soit pour la prise de Jéricho, on tournait 7 fois autour, que ce soit Daniel, etc., de ces choses-là. Alors, vous voyez, ici, j'ai représenté 3 choses. Dieu, qui est incréé, donc on ne peut pas le mettre dans un lieu donné. Le troisième ciel, on ne croit pas comme les musulmans qu'il y a 7 ciels, mais Paul parle du troisième ciel. Le troisième ciel, où il y a les messagers. Donc les anges, c'est le même terme, au service de Dieu. Il y a la terre, Et le premier ciel, qu'on appelle ce qui est immédiatement autour de nous, où il y a des démons. Et quand Jésus chassait des démons, c'est des choses qui peuvent rentrer en nous. Donc des démons qui peuvent être attachés à notre personne, notre caractère, etc. Et il y a ce qu'on appelle le deuxième ciel, qui est entre les deux, où se trouvent les esprits rebelles. Satan était chassé de la juridiction d'être au service de Dieu, puisqu'il a refusé, il s'est rebellé, et il est au deuxième ciel. Et là, il est hostile à Dieu, hostile aux chrétiens. Donc quand nous faisons une prière, quand nous prions le Seigneur, eh bien, nous prions directement à Dieu au travers de Jésus, puisque le voile maintenant a été déchiré et nous pouvons nous adresser à Dieu, et c'est ce que Jésus a appris à ses disciples. Et Dieu répond. Et Dieu répond. Il y en a qui croient que Dieu répond à la prière. Hein, levez la main. Voilà. Dieu répond. Donc il répond à la prière. Alors pas toujours comme on veut, la vitesse qu'on veut, mais ça c'est autre chose. Hein. Mais Dieu répond quand on lui adresse les prières. Et soit il répond voilà, comme il veut, hein, par la puissance du Saint-Esprit, mais il peut aussi répondre au travers des anges, puisque les anges sont à notre service. Donc il donne des ordres. Hein, il donne des ordres au troisième ciel. Et ces anges, eh bien, ils traversent, ils sont obligés de traverser le deuxième ciel. C'est ce qu'on voit dans Daniel. Il y a des combats, ce qu'on appelle des combats dans le ciel, combats spirituels. Et parfois, c'est très long. Pour que la réponse arrive. C'est le cas de Daniel, il a dû attendre des semaines jusqu'à ce que l'ange ait pu traverser cette couche d'hostilité. Voilà, et donc, bon, tout ça, je ne peux pas le développer ce matin, mais ça sera développé dans les écoles du phare pour aller plus loin dans le combat spirituel. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas habitués, quand il y a des choses qui se passent, des réponses qui viennent ou qui ne viennent pas, eh bien, il faut comprendre un petit peu que nous sommes dans un contexte où nous devons rentrer un peu plus dans cette identification, la manière de prier, de faire le combat spirituel. Il faut identifier d'abord le type d'esprit qui contrôle, par exemple, la ville. Si on veut avoir de l'efficacité dans l'évangélisation, c'était le cas à l'époque quand les disciples étaient envoyés par Jésus. Parce qu'il faut cibler nos prières, et en particulier les prières de repentance, qui sont les plus efficaces dans le combat spirituel. À Élisabethville, par exemple, ici, Dieu nous a envoyé dans cette ville pour fonder une église, mais on a eu beaucoup, beaucoup de combats, et on va continuer à en avoir, mais à partir du moment où on enseigne les membres de l'église, eh bien, le combat est beaucoup plus facile, parce qu'un corps qui s'avance, qui se déplace dans l'unité, l'ennemi, il recule. Et dans cette ville, il y a une puissance particulière qui est de pousser les gens à s'auto-glorifier. C'est ce qu'on appelle l'humanisme, hein, qui remonte à quelques siècles où on a poussé en Occident l'humanisme à ce que l'homme résolve tous les problèmes tout seul, hein, par la science, par la connaissance, etc. Voilà. Et on voit comment il est démuni devant les guerres, devant tout cela aujourd'hui, même si on a voilà, l'arme nucléaire, bien sûr, on peut tout détruire, hein, mais en fait, l'homme est démuni devant tout cela. Et donc, l'humanisme, c'est quelque chose de terrible, hein, de terrible contre l'Évangile, parce que quelqu'un qui croit qu'il n'a pas besoin de Dieu, eh bien, il s'oppose directement au message de l'Évangile. Donc c'est difficile, mais ce n'est pas impossible avec Dieu. Donc quand on connaît un petit peu le milieu dans lequel on est, eh bien, on est plus prêt à apporter l'Évangile de manière, eh bien, adaptée. Et on prend des dispositions aussi pour soi-même. Parce que quand on est dans un endroit qui spirituellement nous pousse à nous glorifier, eh bien, nous-mêmes, on va être poussé à nous glorifier, y compris dans l'Église. C'est pour ça aussi l'Église est un endroit difficile à vivre, parce que nous avons aussi des influences, parce que nous sommes dans la chair et on voit combien Pierre lui-même, hein, après avoir donné une révélation sur Jésus, quelques minutes après, eh bien, Jésus a dit arrière de moi Satan, parce que les paroles qui sortaient de la bouche de Pierre n'étaient pas celles qui étaient conformes à la volonté de Dieu. Donc cette connaissance spirituelle qui nous aide à intercéder précisément, à viser précisément et à demander au Seigneur que lui prenne l'autorité. Parce que lui, il a toute autorité sur le ciel et sur la terre. Et quand nous adressons au Seigneur, eh bien, il vient et il met ses ennemis sous ses pieds. C'est pas nous, mais c'est lui qui le fait. Donc nous avons besoin d'intercesseurs. Et l'intercesseur, les intercesseurs ont pour rôle d'ouvrir le ciel. Parce que ces ténèbres qui sont là, qui nous empêchent, et parfois on parle d'un plafond, hein, et je sais que ceux qui sont sensibles spirituellement, qui viennent d'autres pays, ils sentent tout de suite le plafond quand ils viennent en France. Certains qui viennent avec des avions, qui débarquent en France, tout de suite on sent le poids spirituel. Tranquillisez-vous, dans d'autres pays, il y a aussi des poids spirituels, ce n'est pas les mêmes. Hein. Je suis sûr qu'en Colombie, que je n'ai jamais été, il y a des poids spirituels. Mais si on le comprend, ces poids, et quelle est la source, eh bien, on n'est plus à même de pouvoir prier, intercéder. Donc il y a besoin d'intercesseurs pour percer ces ténèbres spirituelles. Et pourquoi ? Percer pourquoi ? Eh bien, pour permettre à Dieu de demeurer, vous voyez, de demeurer au milieu de son peuple. Est-ce que vous avez envie que Dieu demeure au milieu de cette église ? Voilà, eh bien, c'est un combat. C'est un combat parce que Dieu regarde si on veut cela. Voyez-vous ? Dieu peut, mais il tient compte de notre volonté. L'intercession est dire, Seigneur, oui, nous voulons que tu viennes venir au milieu de nous. L'église, vous savez qu'elle n'est pas parfaite, parce que dès qu'on rentre dans une église, déjà, on est imparfait, donc on remplit l'église d'imperfection. Et tout le monde, on est imparfait. Donc l'église est imparfaite. Alors, il y a des degrés d'imperfection. Hein. En 98, on était 7 ans ici, et on avait construit, avec les ouvriers de Christ, ce magnifique bâtiment. Mais à côté de ça, l'ennemi n'a absolument pas voulu qu'on ouvre ce local, et en particulier ce lieu de culte qui était terminé, parce que là, il y avait un trou, on a dû faire des travaux de consolidation. Eh bien, il y a des chrétiens qui ne voulaient pas qu'on vienne ici. On voulait rester au sous-sol. On dit, mais c'est notre objectif, c'était de venir ici, faire le culte. Hein. Mais vous voyez, on était en face de quelque chose d'irrationnel. Ben, c'était un combat, c'était une opposition franche. Donc on a dû combattre, mais en même temps, on ne savait pas. Il y avait des gros péchés dans cette église qu'on ne connaissait pas, jusqu'au moment où il y a une épée ici qui est apparue exactement au milieu. On la voyait, une épée qui était le jugement de Dieu. Dieu allait juger cette église, dès 98. On a fait du combat, etc. En 2001, on a pu dégager l'église, et il est apparu ici une main tendue qui a redonné effectivement cette relation entre l'église et Dieu. Voyez-vous, comme quoi, c'est des choses concrètes ce qu'on vit dans le combat spirituel. Et il faut se prendre par la main, je dirais, dans l'intercession pour arriver effectivement à purifier des lieux. Et Israël a connu cela aussi, et les églises connaissent ça aussi. Dans Apocalypse, vous connaissez la lettre aux différentes églises. Pratiquement à toutes les églises, il est dit « à celui qui vaincra ». Alors je prends juste Apocalypse 3:21. « Celui qui vaincra ». Dit le Seigneur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quels sont ceux qui veulent que ce verset vous soit appliqué ? Moi j'ai envie. Vous voyez, là c'est un verset incroyable qu'il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est-à-dire qu'on pourra, rendez compte, c'est encore un mystère incroyable, quand on peut s'asseoir à côté du Seigneur comme Jésus est assis à côté du Père. Oui, quand on parle d'église, je veux dire, parfois on dit c'est ennuyeux, machin, etc. Mais vous vous rendez compte, les promesses que nous avons, si nous y croyons, ça devrait nous enthousiasmer à être avec le Seigneur. Eh bien, le mot vaincra, qui est utilisé en grec, c'est nikao. Nikao, c'est vaincre. Et Jésus a dit, il faut lier les esprits, ou vaincre, c'est Nikao, l'homme fort. Il faut vaincre l'homme fort avant de piller sa maison. Donc là, on est dans un combat spirituel où si nous voulons des âmes, eh bien, il faut lier l'homme fort. Il faut lier l'esprit qui aveugle l'intelligence. Et Paul est même arrivé à un moment donné, prier ou prendre autorité pour que la personne avec qui il parlait devienne aveugle. Devienne aveugle. Et donc, voilà, on peut aller très loin dans le combat spirituel quand on y croit et quand on l'exerce pour l'évangélisation, parce que l'évangélisation, mes amis, à l'époque des apôtres, ils ont remué tout le monde de l'époque, hein, la Méditerranée. À partir de 98, quand on a vécu ces moments difficiles dans l'Église, j'ai développé des prières de combat spirituel qui ont débouché sur des opérations qu'on appelle Nikaolis. Nikaolis, ça veut dire libérer la ville d'Élisabethville de l'emprise de l'ennemi. Nous avons malheureusement dû arrêter ces temps de prière et de combat à cause de la Covid. La Covid a beaucoup arrêté des choses dans les églises. Et je les ai repris avec le trio que nous formons, Charles et Constant. On se voit parce que le Seigneur nous a réunis pour remettre en route, eh bien, l'évangélisation dans l'église. Et ça commence effectivement par le combat spirituel et on a refait ce parcours de Nicaolis que on fera et que j'espère qu'on fera grâce au trio qu'on veut former. Les trios pour lesquels on va prendre la décision dans l'Assemblée générale pour que tout le monde soit au courant, eh bien, c'est justement pour reprendre ces opérations de vaincre l'ennemi sur la ville. Quels sont ceux qui sont d'accord? Pour vaincre l'ennemi, pour avancer l'évangélisation. Voilà. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Si c'est juste pour métro, boulot, dodo, moi, c'est pas mon truc. Je veux dire, moi, j'ai envie de voir l'Évangile, eh bien, être partagé par mes contemporains. Et si nous sommes habités par cela, eh bien, le Seigneur va nous aider à faire une église forte qui est orientée sur l'évangélisation. L'opération Nikaolis donc, consiste à libérer la ville, on l'a fait pendant des années et des années, libérer la ville d'Élisabethville du contrôle de l'ennemi qui est au-dessus de cela. Et ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de libérer Jean 3,16. Pourquoi Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, pour que chacun puisse venir à la vie éternelle. En mai 2001, avec un prophète qui était là, justement quand on était tous unis, alors l'unité est très importante dans le combat spirituel, toutes les églises du Mont-Toit étaient réunies. Alors, parfois il y avait une personne qui était représentée, bon, j'explique pas le contexte. On était tous réunis en bas, et quand la puissance sur ce bâtiment, parce que ce bâtiment-là était habité aussi spirituellement, il s'est manifesté et on a pu prendre autorité. Et c'est à partir de là que tout a été libéré, qu'on a pu faire des cultes libérés de cette oppression dans le bâtiment. Maintenant, dans la ville, c'est la suite qui nous attend, qui attend cette église, pour gagner des âmes. Parce que ce n'est pas juste de faire des cultes entre nous, de faire de l'entre-soi. Hein. C'est que les voisins, c'est tous ces gens qui sont autour, puissent venir dans cette église. Quand le Seigneur m'a parlé de venir ici, mais c'était d'abord au Mureaux, on était à Saint-Martin. À Saint-Martin, ma maison était pleine. Des fois, on était une centaine dans une seule maison. Bon, c'est vrai que la maison, je l'ai agrandie pour ça. Mais l'objectif, il a dit non, il faut venir dans un lieu public, au centre, là où on peut venir en voiture, en train, en bus, etc., pour que l'Évangile puisse rayonner dans cette région. C'est ça l'objectif de Jésus qui établit une Église. Et donc c'est ça que nous sommes en train de vivre, mais nous avons à faire face à quelqu'un qui, en face, n'est pas tout à fait d'accord avec ça. La troisième forme de prière, c'est la prière de proclamation, ou des prières prophétiques. Il s'agit d'un type de prière qui proclame la parole de Dieu sur nos vies et de confesser par nos lèvres notre victoire. Lorsque nous prions, l'Esprit peut nous conduire à prophétiser sur nous-mêmes des choses importantes. Il faut donc être sensible à l'Esprit et connaître la parole de Dieu qui nous permet de le proclamer. Car la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit qui tranche tout jointure et moelle. Et la parole, elle est vivante et pénétrante jusqu'à partager tout ce qui est au fond de nous-mêmes et qui nous permet d'avancer. Je vous donne quelques exemples de proclamations, mais vous en avez tout plein. Hein. Par exemple, Romains 8, 37. « Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » On peut le dire tous ensemble ?« Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. » Si vous êtes dans une difficulté, un problème, mais proclamez ça. Proclamez ça, c'est la parole de Dieu. Dans toutes ces choses, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour ceux qui croient dans la parole, eh bien, ça s'accomplit. Une autre prière de guérison, c'est 1 Pierre 2:24. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. On peut le dire ensemble ? Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Voilà, donc là aussi, c'est une proclamation qui vient de la parole du Seigneur et qui, lorsqu'elle est dite avec foi, elle accomplit cette promesse. Dans Romains 8, verset 1, il y a une proclamation de justification. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut le dire ensemble ? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si l'ennemi vous accuse, il ne fait que ça. Il ne veut que vous accuser sans arrêt. Et si cette accusation vous arrive, mais proclamez ça. Et il fuira loin de vous. Hein, comme on a vu avec le bouclier de la foi. Proclamez la victoire sur le péché comme le fait Romains 8, 2. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. On le dit tous ensemble. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. La prière d'action de grâce. La Bible nous demande de faire toutes nos prières avec action de grâce, Colossiens 4, 2, Philippiens 4, 6 et d'autres versets. L'action de grâce est comme une enveloppe. Vous voyez, quand vous faites une lettre, vous mettez la lettre dans l'enveloppe. C'est un peu comme l'enveloppe dans laquelle on glisse toutes nos demandes à Dieu. Ça, c'est vous faites des demandes et vous la glissez dans cette enveloppe. Les prières sans action de grâce sont comme des lettres présentées à Dieu sur du papier froissé. Alors que l'enveloppe, justement, c'est quelque chose où on honore le Seigneur. On lui dit, ce que je te demande, je crois que tu veux me le donner. Voyez. Regardez Jésus. Jésus qui était devant la foule, qui avait faim, toute une foule, donnait à manger. Et il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Et dans Matthieu, chapitre 14, verset 19, où vous avez ce passage, Jésus n'a pas prié son Père en disant, rajoute-nous encore plus de pain et de poissons. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a rendu grâce pour ce qu'il avait. Voyez-vous ? Il a rendu grâce pour ce que les disciples, ce qu'il a demandé, voilà, montrez-moi ce que vous avez, etc. Eh bien, à cause de cela, parce qu'il a rendu grâce, le Père, Dieu l'a multiplié, et il y a eu ce grand miracle que nous pouvons voir dans ce passage. L'action de grâce permet de multiplier ce que nous avons et d'ajouter de nouvelles bénédictions. Voyez-vous la puissance de l'action de grâce. Lorsque nous sommes exaucés dans nos prières, sachons revenir vers Dieu, comme l'a fait ce lépreux. Sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Eh bien, ce n'est que celui-là qui était sauvé. Les autres ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Voyez. Et donc, on peut avoir une bénédiction, mais ce qu'il faut, c'est avoir toute la bénédiction de Dieu, y compris spirituelle. Dans Luc, chapitre 17, 18, il dit, Jésus dit à ce lépreux qui vient, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger ?» Parce qu'en plus, c'était un étranger, c'était un samaritain. Les 9 autres étaient des juifs, ils ne sont pas venus. Lui, samaritain, est revenu. « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» On rend gloire à Dieu quand on revient avec des actions de grâce pour remercier le Seigneur. Donc n'agissons pas comme ces 9 autres lépreux et sachant dire merci au Seigneur quand nous avons fait notre prière, parce que nous savons qu'il répond, parfois en son temps, mais il répond. Et nous sommes reconnaissants pour sa réponse. La louange, une autre forme de prière, de reconnaissance, de proclamation, puisqu'on proclame beaucoup de choses dans la louange. Et vous voyez, la louange le dimanche, c'est très important, parce que c'est l'endroit où tout le monde peut s'exprimer. Là, il n'y a que moi qui m'exprime, mais la louange, tout le monde s'exprime. Et j'ai vu qu'il y a des chrétiens qui viennent en retard, bon, je peux aussi être en retard, mais systématiquement. Ils n'ont pas compris le sens du culte où chacun doit apporter une offrande. Et c'est dans la louange qu'on le fait. Le Seigneur, dans Ésaïe 57, verset 19, dit « Je mettrai la louange sur les lèvres ». La louange, c'est le fruit de lèvres qui confessent le nom de Dieu. Et le psalmiste, dans le psaume 51, verset 17, dira « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Voyez-vous, lorsque nous sommes prêts à ouvrir nos lèvres, le Seigneur les remplit de sa louange. Le mot hébreu pour louange, c'est « tehila », qui veut dire « adoration », « action de grâce » ou encore « gloire et renommée ». Et dans la louange, il y a la proclamation du nom de Dieu. L'honneur qui est donné à son nom, l'acclamation, l'exaltation, des cris de joie, comme on a pu faire ce matin. On n'a pas beaucoup crié, mais voilà, si vous êtes avec des Israélites, ils sont très expressifs dans la louange, dans la danse, comme on le faisait avec Soda Pop et Christine Janville. Et c'est ce qu'a fait le roi David. Dans 1 Chronique 15, vous avez cette danse du roi David, qui a énervé sa femme, qui n'a pas compris sa joie que le tabernacle revenait à Jérusalem. Dans le psaume 100, louer Dieu, c'est pousser des cris de joie à son honneur. C'est publier ses hauts faits à travers des témoignages, des actions de grâce. Et cette louange retentit en esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Là aussi, c'est une réalité si on le réalise, on serait beaucoup plus dans la louange pour adorer et glorifier le Seigneur. La louange est très puissante et elle fait peur à l'ennemi. Quand on a eu ce bâtiment-là qui était habité par des mauvais esprits, c'est dans la louange que cet esprit a ricané et s'est moqué de nous, voyez-vous, parce qu'il y avait une louange très forte à ce moment-là. Et pendant 3 quarts d'heure qu'a duré cette manifestation, eh bien, c'est à chaque fois, quand on entendait des temps de louange, qu'il y avait cette moquerie. La louange délivre. Rappelez-vous Jéricho, et ils louaient, bien sûr, à la fin, ils avaient l'ordre de plus rien faire, mais ils chantaient, ils proclamaient avec des trompettes, et les murs se sont écroulés, et on est délivré de nos ennemis. Souvenons-nous des murailles de Jéricho, souvenons-nous de la prison qui a été ébranlée quand Paul et Silas étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur en prison. Et là, tremblement de terre, et ils ont pu sortir de prison. Quand les situations sont difficiles, eh bien, que nous sommes face à des forteresses ou à des prisons spirituelles, la louange peut être la clé de notre délivrance. Pendant longtemps, parce que l'Église a connu des périodes d'expansion très très importantes, eh bien dans ce moment-là, on a fait des rassemblements. On appelait ça des moving glad. Hein. Je n'explique pas ce que c'est. C'est un slogan, mais on pourra les remplacer par d'autres mots. Des rassemblements de temps de louange et d'adoration pendant des heures. Et j'ai eu à cœur, justement pour honorer le Seigneur, d'organiser 48 heures de louange non-stop, jour et nuit. Il y avait ici 12 groupes de louanges qui se sont succédés de la région parisienne. Et en fait, on n'a fait que de la louange. C'était incroyable. Le ciel s'est ouvert et on a vécu des temps formidables. Mais il ne faut pas rester sur le passé, hein. On n'est pas des anciens combattants. Vous êtes des nouveaux combattants, eh bien, il faudra re-rentrer dans ces temps de louange. Vous dites amen ?
Amen.
Amen. Et ce sont donc ces opérations Nicaolis qui étaient en même temps avec les temps de louange, c'est-à-dire le combat spirituel, qui va avec la louange. L'autre forme de prière, c'est l'adoration. Adorer Dieu, ce n'est pas une question de musique ou de parole, mais c'est plutôt une posture de soumission et d'obéissance, de prosternation dans notre être intérieur envers celui qu'il reconnaît comme un être supérieur, comme un être incréé. Dieu est tellement supérieur à nous que nous ne pouvons que nous prosterner devant lui. Et cette posture n'est pas que physique, mais elle est aussi physique, mais elle est surtout dans le cœur. Le verbe adorer dans la Bible est traduit par le mot grec proskuneo. Proskuneo, ou en hébreu, c'est charar. Charar, qui veulent tous les deux dire se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se courber face à un être supérieur. Voyez-vous, c'est exactement l'inverse de l'humanisme, hein, qui est que l'homme s'élève. Non, on se baisse devant Dieu, et c'est aussi bien physique, mais surtout intérieur. Se courber. L'adoration est un culte que l'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices et des holocaustes. C'est-à-dire, des holocaustes étaient des victimes qui étaient brûlées complètement. Parce que d'autres sacrifices, il y a une partie qui allait au prêtre pour honorer, parce que les Lévites, c'était toute une tribu qui vivait que des sacrifices qui en partie étaient consommés, des autres, ça leur servait de repas. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrifices d'animaux, mais dans la Nouvelle, eh bien, il s'agit de nous offrir nous-mêmes à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1, dit que Dieu veut des sacrifices vivants, sains et agréables, qui sera de notre part un culte raisonnable. Le culte que nous devons rendre à Dieu, c'est le sacrifice de nous-mêmes. L'adoration, c'est aussi une attitude de révérence et de contemplation de la gloire de Dieu, qui nous transforme en la même image de gloire en gloire, comme le dira Paul dans Corinthiens. Et voyez, dans ces temps, moi j'ai vécu des temps, des rassemblements de louanges, d'adoration à Munich, hein, ensuite après à Jérusalem, il y en a beaucoup. C'est absolument incroyable. Vous vous êtes transporté dans la présence de Dieu dans ces temps qui durent plusieurs jours de louanges et d'adoration. Et vous pouvez adorer, et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse vivre dans cette église dès que ça sera le moment. La prière d'intercession. Intercéder signifie intervenir en faveur de quelqu'un, auprès d'une personne qui a autorité ou compétence. L'intercession est une prière qui n'est pas centrée sur soi, mais sur l'autre, hein, afin d'obtenir pour l'autre la miséricorde et la faveur de Dieu. Et c'est un acte d'amour. Hein. À cause même du caractère altruiste de ce type de prière, les chrétiens, on ne les voit pas beaucoup dans ces genres de réunions. Prier pour son besoin, c'est bien. Prier pour les autres, on voit beaucoup moins de personnes qui viennent dans les réunions de prière. Or, c'est l'objet de la maison de prière ici. Quand on est venu ici, le Seigneur nous a dit: cette maison sera une maison de prière pour toutes les nations. ce sera pas juste une salle de culte, ce sera pas juste une église d'entre-soi, c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire que là, dans cet endroit-là, maintenant, on a le lieu, Dieu a permis par toutes sortes de miracles qu'on l'ait, eh bien, il faudra le remplir d'intercesseurs qui intercèdent jour et nuit, 7 jours sur 7. Voilà, et c'est ça ce que Dieu veut faire ici. Le plus souvent, lorsqu'un chrétien prie, c'est pour les choses qui le concernent, mais Dieu cherche des intercesseurs. Il cherche des gens qui intercèdent. Regardez dans Ésaïe 62, il dit « Je cherche un intercesseur et je n'en trouve pas. » Parce qu'il faut les mettre sur les murailles de Jérusalem, sur les murailles où on voit, on regarde, il y a les sentinelles, vous voyez, il y a une attitude à nouveau de combat spirituel, parce qu'il y a des ennemis qui sont là. Tant que l'ennemi ne sera pas dans le précipice à la fin des temps, eh bien, le diable nous accuse jour et nuit, nous cherche des noises, etc. Donc il faut des intercesseurs, jour et nuit, devant Dieu. Et cette mission est confiée aux chrétiens qui sont lumière du monde. C'est dans Matthieu 5, 14 que nous trouvons ça. Quand nous intercédons pour des hommes sur la terre, pour des souverains, pour des pays, pour des situations graves comme nous connaissons aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est là et Jésus intercède pour nous en notre faveur. Dans Romains 8, verset 26, il est dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voyez-vous, la prière d'intercession, c'est vraiment de rentrer dans le cœur de la pensée de Dieu, se laisser remplir par le Saint-Esprit et exprimer ce que... Et ça se fait pas en 2 minutes. C'est pour ça que la maison de prière, c'est un lieu qui est consacré uniquement à la prière, pour que nous puissions vivre ces choses et être au service du Seigneur dans l'intercession. La prière d'accord. Notre Seigneur Jésus disait ceci à ses disciples. Il disait, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 19. Dans ce type de prière, on s'associe avec une autre personne ou plusieurs personnes, 2 ou 3 ou 4, mais pour que cela marche, il faut une réelle union. Quand vous êtes tout seul, bon, vous n'avez pas besoin d'union, vous priez, etc. Quand vous êtes à plusieurs, il faut qu'il y ait l'union, il faut qu'il y ait l'accord. Et là, c'est déjà plus difficile. C'est pour ça que les réunions de prière, c'est des défis aussi de notre unité. Unité de vision, unité de pourquoi on prie, comment on prie, etc. Voilà. Je sais que Michel et Julie, ça fait, je crois, 25 ans qu'on priait toutes les semaines. Voilà, il y a un rodage qui se fait, mais après, on connaît un peu mieux. Et souvent, quand vous ne savez pas quoi prier, vous dites que ce soit la volonté du Seigneur. On peut avoir des différends sur la façon de prier, sur ce qu'on va demander au Seigneur. Mais quand on ne le sait pas, on s'unit en disant « Seigneur, c'est ta volonté ». Voyez-vous, il y a toujours un moyen d'être unis. Mais justement, il faut chercher l'unité dans la prière et pour la prière d'accord. Et il faut que ce soit dans la foi, une unité de foi. Comme par exemple les paralytiques. Les hommes qui ont amené le paralytique, ils étaient tous unis en faisant un trou dans le toit et en descendant le toit. Il y avait une volonté, effectivement, d'unité pour que le paralytique soit guéri et Jésus a guéri le paralytique dans Luc 5, 20. Dans Amos chapitre 3, verset 3, il est dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans avoir convenu ?» Voyez-vous, il faut se convenir, il faut s'associer dans la prière, il faut véritablement s'accorder sur des points pour être exaucé de la part de Dieu. Alors pourquoi la prière d'accord ? Eh bien la Bible dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur est celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. » Voyez-vous, là aussi, on voit ce travail d'équipe, ce travail ensemble, où il y a des chrétiens qui veulent vivre leur chrétienté tout seuls, Eh bien, faut pas s'étonner que parfois il ne se relève pas ou difficilement. La prière d'accord, c'est qu'on se soutient mutuellement. Et que si l'un est moins persévérant, hein, c'est là, ça arrive, on est fatigué, on est moins persévérant, mais l'autre est là pour l'encourager, pour le relever, voyez-vous. Et donc, du coup, la prière, elle reste, hein, au lieu de tomber. Regardez le nombre d'églises qui ne prient plus. Ne prie plus, parce que voilà, il y a fatigue, il y a tout un tas de choses qui font qu'on n'est plus encouragé. L'Église primitive faisait ce type de prière et avait des résultats. Regardez Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et dans Acte 12, chapitre 5, avec cette prière d'accord de l'Église, ils ont pu obtenir la libération de Pierre qui était dans la prison par un ange. Un ange est venu délivrer Pierre. Et quand Pierre est venu dans la réunion de prière, ils étaient tous étonnés. Ben oui, Dieu avait répondu. Il avait sorti Pierre de la prison. Depuis janvier 2023, moi je suis très encouragé parce que Charles, Constant et moi, nous avons décidé de nous rencontrer toutes les semaines pour nous accorder dans la prière. Et ce qui est formidable, c'est que depuis cette semaine, Oscar s'est joint à cette décision. Donc, c'est vraiment quelque chose d'encourageant de voir que Dieu, ces prières d'accord, elles vont nous accorder ensemble, vont nous unir ensemble, vont nous aider à grandir. Vous savez, il suffit de 2-3 personnes. Hein. Dieu n'a pas besoin de grand monde. Hein. Avec 12 disciples, il a transformé le monde de l'époque. Il a mis sens dessous l'équipe. Ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la qualité de notre prière d'accord. Le neuvième type de prière, c'est la prière de supplication ou la prière d'enfantement. Alors le mot qui est utilisé, c'est déésis. Ce terme veut dire indigence, privation, pénurie. C'est une forme de prière dans laquelle on supplie pour un besoin primordial avec insistance. Elle est faite lorsque nous sommes privés de quelque chose, lorsque nous sommes en pénurie de quelque chose d'essentiel. Hein, voyez-vous ? Je ne sais pas, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous perdez tout ça, vous avez quelque chose à supplier à Dieu. La supplication permet d'enfanter de nouvelles choses, car cette forme de prière va aller jusqu'où dans les entrailles, dans vos entrailles. Hein. Vous êtes en train de mourir tellement vous priez, Seigneur, je te supplie, agis. Jésus a fait ce type de prière pour que Dieu le sauve de la mort et qu'il le ressuscite, c'est Hébreux 5, 7, carrément. Il priait avec insistance, avec larmes, avec de grands cris, Jésus, dans Luc 22, verset 44. Ce type de prière ne peut pas se simuler. Il ressemble à une personne qui est en agonie, ou à une femme qui éprouve des douleurs de l'enfantement. Dans cette prière, on épanche son cœur, son âme devant Dieu. Anne, par exemple, dans l'Ancien Testament, a fait cette forme de prière à Dieu parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et le sacrificateur Élie pensait qu'il était ivre de vin. Et vous, donc, ça montre que voilà, l'impression qu'elle donnait, c'est que comme si elle était saoule. Tellement sa douleur était grande, nous dit 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dit cette forme de prière à Dieu, car l'ange lui dit « Ta prière a été exaucée ». Donc c'est le mot « déésis » qui est utilisé, « Ta prière d'intercession, de supplication a été exaucée ». Dans Luc chapitre 1, verset 13. Cette prière est souvent associée au jeûne et à l'humiliation devant Dieu pour faire taire la chair. C'est quoi le jeûne ? Ce n'est pas parce que vous jeûnez que Dieu va répondre. C'est parce que vous allez faire taire la chair et que vous allez être dans l'esprit davantage que la chair. La veuve Anne, qui avait 84 ans, ne pouvait pas avoir d'enfant, servait Dieu dans les prières de type déésis et dans le jeûne, nous dit Luc, chapitre 2, verset 37. Et lorsque la Bible parle de la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. Il s'agit de la prière d'Ésis, donc Jacques, chapitre 5, verset 16. Ce type de prière est effectivement fait dans la ferveur, car, comme dit plus haut, il vient du plus profond de nos entrailles. Et il ne peut pas se simuler, parce que ce n'est pas juste une prière du bout des lèvres. Michel et moi, j'ai fait toute ma carrière à l'aérospatiale comme ingénieur, je n'avais pas besoin d'être salarié, j'ai jamais été salarié de l'Église en tant que pasteur. Pourtant, j'ai mené les deux de front par la grâce du Seigneur. Mais en 98, quand on a eu cette difficulté pour ce lieu qui maintenant est béni, mais il fallait mener ce combat, eh bien, on a lâché prise. On a dit maintenant, on donne nos tabliers. Moi, j'ai dit, je ne veux plus être pasteur dans ces conditions. Et pendant deux mois, on a jeûné, prié jusqu'à 5, 6 heures du matin, non-stop, tout ça. On a fait ce genre de prière, d'agonie. D'ailleurs, c'est pas possible. C'est pas possible de voir une église comme ça qui est tellement divisée. Et le Seigneur a répondu à la suite de ça, mais voilà, on a payé le prix. Mais le Seigneur a fait de grandes choses et vous êtes là aujourd'hui aussi dans ce lieu que le Seigneur a béni et qui va continuer à bénir. La prière d'humiliation ou de repentance. Cette prière est proche de la supplication. Elle se fait lorsqu'on cherche la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est le cas lorsqu'on demande le pardon de nos fautes. Seigneur, pardon, j'ai fauté. Et nous chutons tous, nous faisons tous des fautes, plus ou moins grandes. Dans l'Ancien Testament, les hommes prenaient le sac et la cendre pour s'humilier devant Dieu. Et ils associaient souvent ce type de prière avec le jeûne. La grâce que cette prière déclenche vient du fait que l'homme s'humilie devant Dieu. Ce n'est pas tellement le sac, la cendre, mais c'est le fait de s'humilier devant Dieu. Et Dieu a compassion, dans les psaumes chapitre 51, verset 19, il est dit que Dieu a compassion d'un esprit abattu, d'un esprit brisé et langui. C'est là que le Seigneur peut mettre son sceau. Amen, amen. Je me rappelle, et Oscar se rappelle aussi, quand je cherchais une solution pour un pasteur opérationnel, et que je lui ai demandé, il a dit, mais tu sais, moi, Bernard, tout ça, je dis, écoute, moi je préfère un pasteur qui s'est cassé la figure plutôt qu'un pasteur qui a tout réussi. Parce que un pasteur comme ça, il sait qu'il ne peut pas compter sur ses forces, sur ses propres forces. Sinon, on est dans l'humanisme. Hein, et il y a des pasteurs qui sont dans l'humanisme en pensant que... Et c'est pour ça que Dieu aussi nous met dans des épreuves pour nous aider à le chercher de tout notre cœur. On recourt souvent à l'humiliation lorsqu'on se repent pour qu'il éloigne des fléaux, des jugements, en conséquence de nos désobéissances. Je vous parlais, en 98, il y avait carrément une épée qui s'est présentée ici. Et lorsque j'ai vu ça, eh bien, j'ai demandé à toute l'Église de rentrer dans la repentance. On a commencé une repentance le 5 septembre, c'était mon anniversaire, et pendant 5 semaines, tous les jours, on est venu ici, en présentiel, pas en Zoom, en présentiel, pour nous repentir. Parfois 2 fois le dimanche, pendant 5 semaines. Et moi, j'étais prêt à plus jamais arrêter tant qu'on n'avait pas la bénédiction de Dieu. C'est un pasteur qui est venu en disant, maintenant André, tu peux arrêter, le Seigneur va répondre. 5 semaines, tous les jours. Voyez-vous. Mais grâce à ça, eh bien, nous avons vu des choses fantastiques se produire et l'ennemi reculer. Ce fut le cas des habitants de Ninive aussi. Rappelez-vous Jonas qui leur a annoncé que la ville allait être détruite. C'est quand même pas rien, une ville énorme comme ça. Eh bien, ils se sont humiliés devant Dieu, dans le jeûne, dans la supplication, avec le sac et la cendre. Et Dieu, eh bien, il a donné eh bien, la vie à cette ville. Même le roi Akab. Imaginez, on parle toujours d'Akab et de Jézabel. Okay, bon, voilà, c'est l'horreur. Bon, quand vous y pensez. Eh bien, le roi Akab, hein, bon, Jézabel, elle est morte, le roi Akab s'est humilié devant Dieu. Mais ce n'est pas imaginable tout ce qu'il a fait. Eh bien, Dieu a écouté cette humiliation et il a renoncé à faire venir le malheur sur sa maison pendant sa vie. Bon, après, toute la suite a été détruite. Toute la génération suivante, il a donné à Jéhu et à une autre lignée. Mais pendant sa vie, vous voyez, Dieu, il fait grâce quand on s'humilie devant lui et qu'on regrette ses péchés. La prière d'humiliation permet de recevoir le pardon de Dieu. À chaque fois, on prend ce verset qui est formidable dans 2 Chroniques. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est important, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. N'est-ce pas formidable de voir que si on a péché, et on pêche tous à un moment donné, bien si on rentre dans la repentance, le Seigneur fait grâce et il nous guérit. La prière en langue. Il est dit dans la parole que le parler en langue, on s'édifie soi-même, 1 Corinthiens 14, 4. Il ne faut pas confondre la prière en langue faite par soi-même et le parler en langue dans une assemblée pour communiquer un don spirituel. Il faut prier en langue dans une assemblée, mais dans ce cas, il faut le faire pour soi-même et ne pas perturber les autres. Bon, il faudrait revenir sur cet enseignement, mais juste pour évoquer les choses, il est inutile de parler en langue à haute voix puisque personne ne comprend ce que vous dites, comme le dit la parole, sauf s'il y a une interprétation, sauf si c'est intelligible par celui qui vient et qui entend ça. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Parfois, on peut s'exprimer en langue dans des moments de louange collective, quand on est tous rassemblés, car on exprime des choses ineffables, comme les apôtres au moment de la Pentecôte. Ils disaient des choses ineffables de Dieu. Donc, dans toutes les langues, ils entendaient des merveilles de Dieu. Et c'est parfois aussi ça dans une rencontre de louange et d'adoration. Mais c'est quand on est entre chrétiens. C'est pas quand il y a des personnes nouvelles ici. La prière en langue est personnelle. Elle consiste à se recharger, un peu comme recharger les batteries d'une voiture, spirituellement. À se bâtir, à prendre des forces nouvelles en esprit. Ça recharge notre homme intérieur. Et on a besoin d'être constamment fortifié, renouvelé, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et en parlant en langue, on se renouvelle spirituellement pour prier, pour intercéder, pour toutes sortes de choses qu'on veut faire pour le Seigneur. Prier en langue permet aussi de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu, selon 1 Corinthiens 14, verset 17. Toute personne qui a reçu le baptême de l'Esprit peut parler en langue pour s'édifier personnellement. Et le parler en langue nouvelle, est un des miracles qui accompagne ceux qui auront cru dans le nom de Jésus, dans Marc 16, verset 17. Il nous faut exercer ce don, parce que c'est un don que Dieu nous donne et qui sert à notre édification. Et nul ne doit nous empêcher de parler en langue. Paul parlait en langue beaucoup plus que tous les autres, d'après lui. Et il ne faut pas éteindre l'esprit. Paul parlait en langue, et je souhaite qu'effectivement cette église puisse continuer. On a eu beaucoup de prophètes dans le passé, des parlers en langue, des interprétations, etc., qui ont édifié l'église, qui ont fait avancer l'église. Et je souhaite que ce temps revienne. La prière en langue permet aussi de prier sans connaître les besoins réels d'une personne. Mais l'Esprit prie en nous pour cette personne. C'est quand on parle en langue, l'Esprit, au travers de nous, prie pour cette personne. J'ai un témoignage que j'ai entendu quand j'étais à Montréal, dans les années 72-74, d'un évangéliste qui avait une grande autorité spirituelle, qui avait beaucoup, beaucoup de résultats dans son évangélisation. Mais il avait plusieurs personnes qui priaient pour lui. Et un jour, il est sorti d'une réunion avec des jeunes de banlieue, tout ça. Il allait dans une autre réunion, il faisait de l'évangélisation. Et puis, pendant qu'il partait, il a eu un accident de voiture. Sa voiture est rentrée, ou quelqu'un est rentré dedans, je ne sais plus. Lui, il a été éjecté de la voiture. Il est tombé, je ne sais pas combien de mètres. Et là, il y avait des serpents, la sonnette, qui l'attaquaient. En tombant par terre. Vous voyez, l'ennemi voulait sa mort, quoi. Et après, quand il a parlé à ces personnes de l'intercession, ils ont dit que à ce moment-là, ils étaient à des milliers de kilomètres de l'autre côté des États-Unis, c'était aux États-Unis. Il a dit, Dieu les a réveillés en pleine nuit, à 5h du matin, ce qui s'est arrivé. Il a intercédé, mais il savait qu'il devait intercéder pour cet évangéliste. Mais il ne savait pas quoi. Donc il a prié en langue, et c'est à ce moment-là qu'effectivement, il a été délivré, parce qu'il y a une pierre qui est tombée et qui a tué le serpent. Il est venu de nulle part, il ne sait pas. Alors, il est sorti miraculeux. Il a été gardé. Voyez-vous, c'est un travail de collaboration entre l'intercesseur et celui qui est sur le front, qui est devant. C'est pour ça qu'il faut jamais, il faut toujours avoir des intercesseurs derrière, hein, qui prient pour vous et qui agissent en votre faveur. Amen. Est-ce que j'arrête là? J'arrête là? Il y en a beaucoup. Hein. Je reprends une autre fois. Qu'est-ce que veut que j'arrête? Ok. Bon, le pasteur là-bas, il a dit que j'arrête. Oui, non, mais ce que j'ai dit à Oscar, j'essaie de finir, mais bon, il est d'accord que j'arrête, donc je le reprendrai une autre fois. Voyez-vous, j'ai cavalé, je vous l'ai dit, hein, il y a 13 formes, et c'est pas tout, hein, c'est juste les plus importantes que j'ai évoquées. Et on va les prendre plus en détail. Dans les temps qu'on va vivre ensemble, hein, on va vivre des choses formidables. On va vivre l'évangélisation de cette ville, on va vivre l'évangélisation du GPSO. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas nous. De toute façon, c'est pas nous, il chercherait quelqu'un d'autre. Hein. Dieu n'est pas limité à nous. Hein. Le plus important, c'est que sa gloire soit manifestée. Et donc, on aura le temps de vous enseigner là-dessus. Comme je vous dis, les opérations Nicaolis, on les a fait pendant des années. Voilà, tout le matériel est là pour vous expliquer comment ça se passe et comment on le fait ensemble. Et dans les trios, on va déjà commencer à expérimenter tout ce genre de prière. Mais vous voyez, la prière est très vaste et très variée. Hein, et c'est un mystère et en même temps un privilège. Et là, on ne peut pas s'ennuyer. Vous voyez, quand on est devant tout cet arsenal de communication avec le Seigneur, c'est passionnant. Et j'aimerais que vous soyez passionnés pour la prière, que vous soyez passionnés pour l'intercession, que vous soyez passionnés pour conquérir des âmes par la prière. Amen. Parce que c'est beaucoup plus efficace que la parole. La parole, c'est important aussi. Mais s'il y a la prière, eh bien, ça fait tout. Le réveil en France, si vous ne le savez pas, en 1930, a commencé par 3 femmes qui priaient. C'était la Croix-Bleue, je crois, au Havre. Il priait. Et là, le réveil a éclaté un jour. Parce que Dieu voit la prière de ses enfants. Amen. Et si nous croyons la prière, nous allons voir des grandes choses. Seigneur, merci. Parce que tu nous enseignes à prier. Tu as enseigné la prière à tes disciples. Et nous voulons, Seigneur, être de ceux qui sont obéissant, Seigneur, à ta parole, et de ceux qui apprenons et qui prenons plaisir dans la prière et dans l'intercession. Seigneur, donne à cette Église, à tous ceux que tu appelles aujourd'hui à rejoindre cette assemblée, Seigneur, qu'ils aient envie de prier, qu'ils aient envie, Seigneur, de voir des choses formidables, Seigneur, qui surviennent au travers de la prière. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, que par la prière, nous pouvons faire de grandes choses. Amen. Amen. Amen.